21h30 à Paris, 2h de moins en temps universel.
Afrique Soir.
Le journal Sylvie Berruet.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. À Madagascar, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission franco-malgache d'historiens sur la répression de l'insurrection de 1947. Le conflit dans l'est de la RDC avec des réactions. Le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent une avancée après la déclaration de Kinshasa et des rebelles de l'AFC M23 affirmant vouloir une trêve. Nous irons en Côte d'Ivoire après la radiation de son candidat Tidjane Thiam des listes électorales qui l'écartent de la présidentielle d'octobre, le PDCI peine à mobiliser. Et puis l'économie, alors que l'administration Trump annonce de nouvelles coupes en Afrique, le Kenya, lui, se rapproche de la Chine. Troisième visite en 3 ans du président William Ruto à Pékin. Au dernier jour de sa visite à Madagascar, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission mixte franco-malgache. Elle sera composée d'historiens et elle planchera sur les massacres commis lors de l'insurrection de 1947. Sa visite au président français aurait dû s'achever par la toute première restitution française de restes humains, celle des crânes sakalaves, dont celui présumé du roi Toer, décapité par les troupes coloniales françaises en 1897, finalement, pour des questions de dissension entre les différentes branches de descendants du roi et de calendrier coutumier. Cette restitution a été reportée au mois d'août. Sarah Tetto.
Il aura attendu la toute fin de son court séjour malgache pour l'annoncer. Quelques minutes avant de quitter la Grande Île, Emmanuel Macron a donc déclaré face à la presse que le président Ange Radzoen et lui avaient décidé d'instaurer une commission mixte franco-malgache d'historiens pour faire notamment la lumière sur le massacre de mars 47 et les répressions d'insurgés tout au long de la colonisation. Les atrocités qui ont été commises à cette époque restent encore une plaie très forte dans l'histoire de Madagascar, a-t-il expliqué. C'est aussi, je cite, un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir. Sans plus donner de détails, le président français a donc annoncé la mise en place de travaux communs, une déclaration qui intervient une semaine jour pour jour après la création de la commission mixte franco-haïtienne. Contactés par RFI, les historiens malgaches saluent cette décision qui leur permettra, ils l'espèrent, d'accéder enfin aux archives de la police coloniale. Un pas de plus pour lever notamment le voile sur le nombre réel de victimes des répressions. Selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Sa visite événement en Afrique du Sud aura tourné court. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a dû abréger son voyage à Pretoria. Il est rentré précipitamment en Ukraine après de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins 8 morts à Kiev. Il accuse d'ailleurs la Russie d'avoir utilisé un missile fabriqué en Corée du Nord. Et au cours de cette brève visite en Afrique du Sud, le président sud-africain, lui, Cyril Ramaphosa, a appelé à un cessez-le-feu inconditionnel. En Ukraine, l'Afrique du Sud, a-t-il dit, est profondément préoccupée par la poursuite du conflit, la perte continue de vie civile et la détérioration de la situation humanitaire. Déclaration donc de Cyril Ramaphosa. Le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent la déclaration du gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 affirmant vouloir une trêve dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué conjoint lu hier soir à la télévision nationale, Kinshasa et le groupe armé disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve prélude à un cessez-le-feu. Les explications d'Alexandra Bonjon.
Médiateur dans cette crise, le Qatar salue ce qu'il qualifie d'avancée et appelle Kinshasa et l'AFC M23 à poursuivre le dialogue dans un esprit constructif. Les délégations n'ont annoncé ni trêve ni le début de véritables pourparlers, mais leur communiqué commun suscite déjà beaucoup d'espoir. C'est la première fois que les deux parties publient un communiqué officiel à l'issue de leur discussion au Qatar. Dans ce communiqué conjoint, le gouvernement congolais et l'AFC M23 affirment avoir mené des discussions franches et constructives. Ils affirment avoir convenu de travailler ensemble à la conclusion d'une trêve qui permettra l'instauration d'un cessez-le-feu effectif et se disent prêts à respecter l'ensemble des engagements avant d'ouvrir un dialogue constructif. À noter que cette annonce survient après une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed Al-Khulaifi, en charge du dossier, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, signe pour certains de la pression exercée par Washington pour parvenir à une solution durable au conflit.
En bref, l'Algérie a refoulé depuis le début du mois vers le Niger voisin près de 5000 migrants africains, dont plus de la moitié sont des Nigériens. C'est une annonce jeudi à la télévision d'État du Niger qui met en garde contre une catastrophe humanitaire. Et puis des tensions à Dar es Salaam. L'opposition tanzanienne dénonce des arrestations survenues ce jeudi. Plusieurs sympathisants et responsables du parti Chadema ont été battus, d'autres interpellés alors qu'ils tentaient de suivre l'audience de Lutundu Lissou, le président du parti. Il est jugé pour trahison, une accusation passible de la peine de mort. En Côte d'Ivoire, deux jours après la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, son parti, le PDCI, peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle du mois d'octobre prochain. Des marches étaient prévues dans le pays, mais il faut dire qu'elles ont été très peu entendues, ces appels à manifester. Reportage Binta Diagne.
Dès 8h, les principales artères qui entourent le palais de justice sont bouclées par les forces de sécurité. Pendant ce temps-là, dans le tribunal, les audiences se tiennent normalement. Première affaire inscrite au rôle, Valérie Yapo contre Tidiane Thiam. Cette cadre du PDCI, qui avait été sanctionnée par son parti, conteste la légalité de son élection à la tête du PDCI lors du congrès de décembre 2023, comme l'explique son avocat, Maître Gérard Nguetta.
Le président qui a été élu au PDCI n'était pas habilité, compte tenu du fait qu'il soit français, à diriger ce parti et à faire prendre une décision d'exclusion de notre cliente. Et c'est cette décision que nous sommes venus attaquer devant le tribunal sur le fond.
L'affaire est renvoyée au 8 mai. Quelques ruelles plus loin, les militants du PDCI arrivent au compte-gouttes à la permanence du parti, toujours motivés à exiger la réintégration de leur candidat.
S'il n'y a pas l'homme de Tidiane sur la liste, on ne peut pas mettre l'homme de quelqu'un d'autre sur la liste. Parce que c'est Tidiane Thiam qui le présente pour PDCI NDA. Donc on est là pour lui.
Mais le retard et la faible mobilisation poussent les organisateurs à revoir leur programme. Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI.
Nous avons décidé, en toute responsabilité, de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents. C'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés.
Tidiane Thiam, le président du parti, suit ces événements de loin, en France, où il séjourne depuis quelques semaines. Binta Diagne, Abidjan. RFI,
c'est Afrique Soir, 21h37 ici à Paris. Alors que l'économie mondiale fait le yo-yo en ce moment, chamboulée par les annonces parfois contradictoires de Donald Trump sur les tarifs douaniers notamment, le Kenya, lui, se rapproche de la Chine. Le président kényan William Ruto effectue en ce moment sa troisième visite dans ce pays, troisième visite en 3 ans. L'objectif est de renforcer les liens de son pays avec Pékin. RFI Pékin, Cléa Brothers.
Cette visite montre une volonté affichée de renforcer l'unité du Sud global. 20 accords ont été signés, couvrant les domaines de la science, de l'éducation, de l'e-commerce, de l'eau, des transports intelligents ou encore du développement ferroviaire. Côté infrastructure, le Kenya espère obtenir un nouveau financement chinois pour prolonger la ligne ferroviaire jusqu'à la frontière ougandaise et élargir l'autoroute entre Nairobi et Mao Summit. Deux chantiers majeurs pour l'intégration économique régionale. Dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis, qui imposent désormais une taxe de 10% sur toutes les exportations kenyanes, William Ruto cherche à diversifier ses partenariats. Il a salué le soutien de la Chine, notamment via les projets des nouvelles routes de la soie. À l'université de Pékin, le président kényan a critiqué l'ordre mondial actuel, qualifiant le Conseil de sécurité de l'ONU de cassé et dénonçant des politiques commerciales américaines jugées destructrices. Xi Jinping appelle, lui, à une coopération renforcée autour de la souveraineté et de la modernisation. Il plaide pour des efforts conjoints pour le commerce, le multilatéralisme et la solidarité avec le Sud global. Claire Broders de Pékin, RFI.
Voilà donc une troisième visite en 3 ans pour le président kényan William Ruto. En Chine, pendant ce temps, eh bien, cette nouvelle coupe de Washington dans ses financements en Afrique, le gouvernement et l'administration de Donald Trump a ordonné la fermeture du Millennium Challenge Corporation. C'est une agence qui a été créée il y a longtemps, il y a 20 ans. Elle avait investi des sommes importantes, 17 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure à destination de l'Afrique. Les États-Unis qui en bénéficient n'auraient pas encore été informés officiellement de l'arrêt de ce financement. Mais le MCC, lui, va se retirer immédiatement des projets qu'il finançait. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. 21h40 ici à Paris. 2 heures de moins en temps universel. Et toute l'actualité, c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Bonne soirée.